Question d'islam par Ghaleb Ben Cheikh. Bonjour et bienvenue à l'émission Question d'Islam, votre émission. J'ai un grand plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Gabriel Martinez-Gros. Gabriel Martinez-Gros, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire médiévale et tout particulièrement de l'islam de cette période-là et au-delà à l'université Paris-Ouest Nanterre. Et aussi vous êtes un fin connaisseur de la tradition religieuse islamique et de sa civilisation. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages et de nombreux articles à ce sujet. Aujourd'hui, si vous voulez bien, nous parlerons non seulement de l'Andalousie, et vous allez nous dire si cette Andalousie a été magnifiée outre mesure ou c'est à juste raison, et particulièrement d'un personnage de cette Andalousie-là, un certain Ibn Hazm, dont vous allez nous dire qui est-il au juste.
Volontiers.
Il m'incombe de donner un peu sa trajectoire de vie. C'est un homme qui est né de mémoire le 7 novembre 994 et il est mort un 15 août, je me rappelle parce que c'est l'Ascension ou l'Assomption, un 15 août 1064 à l'âge de 70 ans, donc à la charnière du 10e fin 10e et puis au-delà de la moitié du 11e siècle. Donc on est dans l'empire ou le califat d'Occident, le califat omeyyade.
Voilà. C'est un homme qui naît à l'apogée d'Al-Andalus et qui meurt, en tout cas à ses yeux, dans cette période difficile qu'on appelle, politiquement difficile, j'entends, qu'on appelle les Taïfas. Il naît effectivement sous le califat des Omeyyades de Cordoue. Ce califat, il a été rétabli par les Omeyyades, qui étaient originaires de Syrie, comme l'essentiel des élites politiques d'Al-Andalus, entre le 8e et le 11e siècle. Après avoir été renversé en Orient par la grande famille des Abbassides, de la parenté du prophète, les Omeyyades se sont réfugiés en Espagne et au début du 10e siècle, ils ont rétabli leur califat, c'est-à-dire qu'ils ont recommencé à revendiquer leur droit au califat contre les Abbassides de Bagdad et contre une troisième dynastie chiite qui s'était établie dans l'espace intermédiaire, si j'ose dire, la dynastie des Fatimides qui s'était établie d'abord en Tunisie actuelle, puis en Égypte, à partir de 970, et cette dynastie des Fatimides qui crée le Caire, qui fonde le Caire en 970. Et donc, les Omeyyades revendiquent de nouveau le califat, c'est-à-dire la magistrature suprême dans l'islam, la succession du prophète, hein, le premier rôle dans la direction des musulmans
des affaires.
Et des affaires, sinon que nous sommes au Xe siècle. C'est-à-dire que à Bagdad, au 8e, à la fin du 8e, au 9e siècle surtout, et au début du 10e siècle, s'est constitué ce qu'on peut appeler la civilisation de l'islam, et la civilisation de l'islam classique, c'est-à-dire une extraordinaire confluence, une extraordinaire convergence de tous les patrimoines, de toutes les terres que l'islam avait occupées au moment de ses conquêtes, au 7e, 8e siècle. Et ces terres sont les plus anciennes du monde, bien entendu. Hein. Ce sont les terres où s'est donnée la révolution néolithique, c'est là que ont été inventées l'agriculture, l'élevage, le tissage, la métallurgie et finalement l'écriture et la cité, bien entendu. C'est là aussi que s'est manifestée la grande aventure intellectuelle de la Grèce antique, et l'islam est l'héritier de tout cela. Et donc ce qui fait que il y a du vrai dans l'image éblouissante qu'on a encore aujourd'hui d'Al-Andalus, c'est que, devenus califes, les Omeyyades vont s'efforcer d'être à la hauteur, hein, si j'ose dire, du titre qu'ils viennent d'adopter à l'égal des Abbassides, c'est-à-dire qu'ils vont s'efforcer de faire d'Al-Andalus, et d'ailleurs ils vont réussir à faire d'Al-Andalus, l'un des très grands centres culturels de l'islam classique.
Il va y avoir une heureuse émulation, pour ne pas dire rivalité, entre Bagdad d'un côté et Cordoue, la perle de l'univers, comme on l'appelait de l'autre, et notre ami, si je puis dire, Ibn Hazm, si je devais lui donner son nom au complet, mais dans la version courte, c'est Abu Muhammad Ali Ibn Hazm, de noble ascendance, donc il naquit à Cordoue, il mourra plus tard à Huelva, donc il reste dans l'Andalousie magnifiée, en tout cas l'apogée civilisationnelle islamique. Il aura une fidélité réelle et indéfectible au pouvoir omeyyade d'Occident.
Voilà, alors son père est ministre, hein, pour tout dire, on le lui reprochera d'ailleurs, puisque c'est un homme extrêmement polémique, il faut le dire tout de suite, c'est un homme de mauvais caractère. Voilà, il est le ministre du calife et en réalité de celui qui exerce la réalité du pouvoir califal à la fin du Xe siècle, qui est le fameux Al-Mansour, c'est-à-dire l'homme qui a mené les très fameuses campagnes, les plus victorieuses et les plus audacieuses à l'intérieur du territoire chrétien du nord de l'Espagne, puisque Al-Mansour est allé jusqu'à prendre Saint-Jacques et à piller Saint-Jacques de Compostelle en 997. C'est le point probablement le plus avancé dans la péninsule ibérique, en tout cas, qu'une armée musulmane n'ait jamais atteinte. En même temps que Al-Mansour, il faut le dire, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec Ibn Hazm, encore que, recrute de part et d'autre, si j'ose dire, au sud, au Maghreb et au nord, dans les pays chrétiens, et en particulier dans l'Espagne du nord de la péninsule, il recrute des soldats et des guerriers pour ses armées. C'est-à-dire que son attitude à l'égard de l'Espagne chrétienne ne se résume pas à ce qu'on a l'habitude d'envisager sous le nom de djihad. C'est certes un djihad, mais c'est aussi une réduction à protectorat et une entrée en quelque sorte des élites chrétiennes dans la mouvance, dans l'organisation politique du califat omeyyade de Cordoue. Son fils qui est renversé et qui va mourir dans la révolution de Cordoue 2010 mourra aux côtés d'un comte chrétien qui sera son dernier fidèle. C'est assez remarquable. Donc Ibn Hazm naît ministre, fils de ministre plus exactement. Il naît au cœur du califat. Il est visiblement, il nous le dit dans le livre dont on va parler d'ailleurs, qui est un peu son livre autobiographique peut-être dans une certaine mesure, Le collier de la colombe. Il naît dans une maison très vaste, avec de nombreux esclaves, avec de nombreux clients, avec une autorité sociale indiscutable, et dans un milieu qui est celui du cercle le plus étroit du pouvoir omeyyade et du pouvoir d'Al-Mansour.
Alors, sa famille est certes de noble extraction. Lui-même a une charge de vizirat aussi.
Tout à fait.
Alors, il y a un débat, mais ça, c'est vous qui allez le trancher, Gabriel Martinez-Gros, sur sa lignée. Est-ce que il est sur deux siècles, ça remonte à des chrétiens de l'Andalousie, ou est-ce qu'il vient, est-ce qu'il est de souche arabe, comme on dit, ou persane même, on le sait pas, ça, ce n'est pas encore tranché.
Alors lui dit effectivement qu'il est d'origine persane. Ses ennemis, puisqu'il en a, et en particulier le grand historien d'Al-Andalus au XIe siècle, Ibn Hayyan, qui est comme lui du parti omeyyade, du parti de la nostalgie omeyyade, puisque l'un et l'autre vont voir s'effondrer cette dynastie des omeyyades qu'ils aiment et qu'ils ont servi. Donc Ibn Hayyan, qui n'en était pas moins son ennemi personnel, dit qu'il est d'origine chrétienne, que sa famille est d'origine chrétienne, ce qui n'est pas un compliment évidemment, dans la bouche d'Ibn Hayyan. Voilà, tout simplement parce que ça nous introduit déjà un peu au personnage. Ibn Hazm est un homme d'une certaine rigueur intellectuelle et même d'une certaine rigueur religieuse. Ibn Hayyan lui reproche de l'être alors que ses ancêtres était chrétien, peut-être son grand-père, peut-être son arrière-grand-père. C'est très possible. N'oublions pas qu'il avoue à demi cette origine chrétienne, parce que, en fait, le nom le plus fréquent pour désigner les chrétiens, surtout la langue, si j'ose dire, chrétienne, c'est-à-dire l'ancêtre qu'on ne connaît pratiquement pas, de l'espagnol d'aujourd'hui, qu'on parlait en Andalousie dans les milieux chrétiens ou dans les milieux d'origine indigène, cette langue romane, en arabe s'appelle la Rajami. Or, Rajam, c'est la manière dont on désigne en général les chrétiens, c'est-à-dire les étrangers, mot à mot, étrangers aux arabes, bien entendu.
Les non-arabophones.
Voilà, les non-arabophones. Le mot Rajam a pris à Bagdad en particulier, dès le 9e siècle, le sens plus particulier de persan. Et donc, se donner des origines persanes, c'est avouer des origines Rajam. Voilà, c'est assez intéressant et ça nous introduit déjà à toute la subtilité, à la virtuosité verbale et intellectuelle d'un Ibn Hazm, évidemment.
Oui, et si je devais m'autoriser une psychologie de bazar ou une métapsychologie par-delà le temps, ce qui expliquerait le fait qu'il est devenu un virtuose de la langue arabe, il parlait un arabe très châtié et très très académique, on aurait dit aujourd'hui.
Absolument, il parle un arabe d'une délicatesse, d'un raffinement extrême. Tous le lui reconnaissent. Je veux dire, même ses ennemis reconnaissent qu'en effet, c'est un très grand styliste. À la différence, par exemple, d'un très très grand esprit dont je me suis occupé aussi beaucoup ces dernières années, Ibn Khaldoun, au XIVe siècle, qui n'est pas un grand écrivain, si vous voulez, un grand manieur de l'arabe, mais c'est aussi évidemment que nous ne sommes plus tout à fait à cet apogée qui autorise la naissance d'un public capable de recevoir une langue particulièrement élaborée, particulièrement raffinée.
Bon. Oui. Et Ibn Hazm était non seulement quelqu'un qui écrivait bien, mais était aussi un grand orateur, éloquent, volubile, passionné, fougueux, certes, mais aussi étonnamment paradoxal sur deux aspects. D'un côté, nous aurons à voir tout ça ensemble durant cette émission, d'un homme d'une grande rigueur, à la fois intellectuelle mais aussi religieuse. Il y a même tout un courant, toute une doctrine, tout un rite, un madhab, on aurait dit en langue arabe, une école de pensée dite rigoriste, ou en tout cas nous y reviendrons, on trouvera le bon qualificatif. Et en même temps, depuis l'élection de Macron, est devenu
c'est une de nos doctrines favorites, oui, c'est notre matériel moderne, même. Voilà, c'est ça.
Et en même temps, un homme d'un raffinement, de parlant de l'amour, et de l'amour sous tous ses aspects, l'amour platonique, l'amour spirituel, mais aussi l'amour charnel.
Tout à fait. Alors ça c'est évidemment le grand mystère et le grand livre, si j'ose dire, d'Ibn Hazm. C'est-à-dire curieusement celui qui est aujourd'hui le plus connu en Occident, alors qu'il n'est pas certain qu'Ibn Hazm voulait en faire autre chose qu'un écrit intime à l'usage de ses amis. À mon avis, c'était un peu plus que ça. Le livre dont il s'agit, donc, c'est le fameux, en tout cas parmi les spécialistes de l'islam et d'Al-Andalus, collier de la colombe, Tawq al-Hammam, qui est probablement l'œuvre littéraire la plus achevée, la plus aboutie, la plus raffinée de la littérature andalouse. C'est vraiment une œuvre tout à fait emblématique et presque identitaire de la littérature andalouse. Et c'est en effet, comme vous le disiez, Raleb, il y a un instant, c'est un livre sur l'amour. Et qui surprend beaucoup chez un homme qui est connu par ailleurs comme un remarquable théologien. Ibn Hazm a écrit, nous y reviendrons peut-être, une histoire des religions, une sorte d'histoire critique, c'est ainsi qu'on l'a traduite. Et comparé, ce qui est tout à fait extraordinaire. Je veux dire qu'on ne trouve ça en Occident qu'à partir du XVIIe siècle. Chez le père Simon, par exemple, un homme qui n'est pas très connu, j'imagine, de la plupart de nos auditeurs, mais qui a joué un rôle important dans la comparaison, dans l'élaboration de la comparaison entre les religions du monde. Bien entendu, Ibn Hazm dispose de moins d'informations que le père Simon, qui disposait de l'activité des missions jésuites en Chine ou en Amérique. Mais il établit une véritable, étant donné les informations, et elles sont déjà assez importantes, il établit un véritable tableau des religions du monde à partir de l'islam, et en considérant bien sûr que l'islam doit être l'aboutissement logique de ces religions du monde. Il y a là une ouverture qui est tout à fait étonnante, tout de même. Une modernité, pourrait-on dire, chez Ibn Hazm. Et puis, c'est un grand juriste. Mais l'un et l'autre ne vont pas très bien avec ce livre sur l'amour, avec ce Tawq al-Hamama. Alors, il y a deux choses d'abord à savoir sur ce Tawq al-Hamama. D'abord que nous n'en possédons, à l'heure qu'il est encore, qu'un seul exemplaire, qui est à la bibliothèque de Leiden. Depuis le XVIIe siècle. Il a été acheté visiblement en Orient, car l'écriture y est orientale, c'est une écriture extraordinairement soignée d'ailleurs, c'est un livre qui a été recopié avec un soin visiblement particulier par son copiste et par son commanditaire probablement, et acheté par un Hollandais, un marchand hollandais, hein. Il aboutit à la bibliothèque de Leiden au XVIIe siècle, et au XIXe siècle, un très très grand arabisant du nom de Reinhard Dozy, hollandais bien sûr, le repère dans la bibliothèque de Leiden et en fait la fortune. En fait la fortune parce que précisément il joue déjà, Dozy j'entends, de ce contraste entre ce qu'on sait déjà d'Ibn Hazm et ce livre qui ne correspond pas. Alors, qui ne correspond pas pour au moins deux raisons, hein, ou trois. La première, c'est que, comme vous le disiez, le sujet de l'amour n'est pas en apparence le thème favori d'un juriste aussi rigoureux que Ibn Hazm, ou d'un théologien aussi
canoniste
et normatif, hein, que Ibn Hazm. La deuxième raison, c'est que ce sont les seuls vers, ce sont les seuls poèmes qu'on connaisse d'Ibn Hazm, qui s'était pour l'essentiel interdit de faire des vers parce qu'il considérait que c'était une activité, dit-il dans d'autres textes, hein, que c'était une activité tout à fait futile. Hein, et la troisième, parce que c'est une véritable autobiographie telle que on n'en trouve pas en Occident, allez, disons avant Montaigne au mieux, et probablement et plutôt Rousseau. C'est-à-dire qu'Ibn Hazm vous parle de son enfance, vous parle d'un temps d'avant le temps où il est le juriste et le théologien Ibn Hazm. Et ce temps est en même temps, bien sûr, le temps de l'amour. Ça, c'est le point important.
Hein. Alors, cher Gabriel Martinez Gros, j'aurais dû le dire dès le début, mais je vous laissais venir comme ça. Vous êtes le second, je dis second, pas deuxième, puisque j'en connais pas un troisième, traducteur, justement, de cet ouvrage, en français. Votre prédécesseur, Léon Bercher, en a fait une traduction au milieu, en tout cas, du siècle écoulé.
Du siècle passé, oui.
Vers 1949 ou quelque chose comme ça.
Tout à fait.
Et vous en êtes le second. Et votre traduction, dont je dis à titre personnel, m'avait beaucoup intéressé, je m'en étais inspiré, parce qu'elle était fidèle au texte, elle date de 1992.
C'est ça.
Et après, il y a eu des rééditions.
Oui, tout à fait. C'est Pierre Bernard qui m'avait, c'est-à-dire le patron des éditions Sinbad à l'époque, qui ont fusionné, on va dire, avec des éditions Actes Sud. Là encore, nous sommes dans la pleine actualité, vous voyez. C'est Pierre Bernard qui m'avait demandé de retraduire un texte qui avait été bien traduit, hein, par Léon Bercher, qui était un excellent arabisant, et en particulier un excellent connaisseur du droit musulman. Il était conseiller au ministère de la justice tunisien, oui. Hein, au moment où il a traduit.
Il est mort à Tunis en 1955.
Voilà.
La traduction du Collier de la Colombe de l'amour et des amants est la plus fidèle du titre arabe.
Absolument. Alors, c'est Pierre Bernard qui a choisi, peut-être a-t-il eu tort, mais en tout cas, c'est lui qui avait choisi de mettre en valeur le sous-titre. Un titre arabe se compose en général d'une formule souvent assez énigmatique, et c'est le cas de Tawq al-Hamama. C'est un peu, il y a plusieurs interprétations possibles de ce premier titre, le Collier de la Colombe. Fi, c'est-à-dire dont le sujet est, en quelque sorte, hein, l'amour et les amants, le titre arabe. Dire de l'amour et des amants, c'est simplement faire du sous-titre ou du contenu, le titre véritable, mais ça n'est pas une trahison, à vrai dire, d'Ibn Hazm. Voilà, j'avais moi-même pensé, je continue à penser, faute peut-être d'avoir davantage approfondi, que cette colombe, c'était peut-être la colombe de Noé dans la Bible. Il y a plusieurs hypothèses possibles, effectivement, hein, parce que le livre est composé de 3 fois 10 chapitres. Et que, comment dire, alors là, nous entrons finalement dans la philosophie d'Ibn Hazm. De quoi s'agit-il exactement? Ibn Hazm est en train de penser à la... Probablement, quand il écrit ce livre, il a 30-35 ans. Hein, il est en train de penser à la guerre civile. Hein, voilà, en 1010, cette grande dynastie des Omeyyades qui règne tout de même depuis 3 siècles sur l'Andalous, 2 siècles et demi sur l'Andalous, et qui a connu dans le dernier siècle de son existence un extraordinaire apogée, cette dynastie s'effondre brutalement. Et le pays se divise en petites principautés qu'on appelle les taïfas, Ibn Hazm, et de ceux, il n'est pas le seul, d'autres...
Étymologiquement, différentes sectes, différentes royautés, voilà. Ou petits royaumes, oui.
Tawaf, c'est le morceau, hein, c'est les taïfas, c'est un morceau, un parti, i, ou une partie, ie, hein, voilà, donc, c'est quelque chose qui insiste sur la décomposition, hein, le fait que l'Empire se défait, en quelque sorte, et Ibn Hazm est de ceux qui n'accepteront jamais. En fait, pour dire simplement les choses, qui n'accepteront jamais cette évolution, qui essayeront pendant de nombreuses années de faire en sorte que les Omeyyades soient rétablis dans leur position et qu'ils puissent rétablir l'unité d'Al-Andalus et même l'unité de ce qu'on pourrait appeler l'Empire Omeyyade, c'est-à-dire au-delà même d'Al-Andalus, cette mouvance, ce protectorat exercé sur le nord chrétien et surtout ce protectorat exercé sur le sud maghrébin de l'islam andalou. Il n'y réussira pas. Et quand il écrit le collier de la colombe, il sait probablement qu'il n'y réussira pas. C'est-à-dire qu'il s'est produit quelque chose d'irrémédiable, de profondément négatif à ses yeux, qui est la chute de cette dynastie aimée, dont il dira et redira que, elle disparue, il n'y a plus rien qui mérite qu'on en fasse l'histoire en Al-Andalus. Et pourtant, il y a là probablement un plan divin. Il est impossible de penser qu'il n'y ait pas un sens à ces événements qui apparemment n'en ont pas. Et vous voyez que là aussi nous sommes devant le problème de l'historien par excellence, hein, c'est-à-dire donner un sens à des événements qui apparemment soit n'en ont pas, soit on en a un tellement négatif que nous avons du mal à les affronter. Eh bien, il va essayer de trouver ce sens en faisant entre la guerre civile et l'amour, en établissant une curieuse égalité métaphorique. Parce que qu'est-ce que c'est que l'amour, dit-il en fait? Ben l'amour, et là il reprend une tradition prophétique, hein, une tradition de Muhammad lui-même, l'amour est une fitna, l'amour est une guerre civile. Pourquoi c'est une guerre civile? Fondamentalement parce que c'est une démarche qui consiste pour 2 individus, et 2 seulement, à s'isoler totalement de la société. Oui. C'est-à-dire à rompre avec la société, bien sûr. Hein. Il y a des chapitres tout à fait délicieux, parce qu'il y a des chapitres, il y a un bonheur d'écriture extraordinaire, hein, il faut le dire, dans le collier de la colombe, il y a des chapitres extraordinaires où il explique comment les amants se servent de la langue commune, celle qui nous sert à nous comprendre les uns avec les autres, pour faire en sorte de se comprendre eux et eux seulement, et faire en sorte que les autres ne comprennent rien.
C'est une sorte d'autarcie linguistique, même si on utilise les mêmes mots que les autres.
Exactement. Je veux dire, j'aime les pivoines, passe pour les autres pour une simple déclaration intéressante, mais tout à fait futile. Mais pour l'amant, ça veut dire... Tu vas m'apporter des pivoines ce soir, bien entendu. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que, en fait, l'amour est une forme de sécession qui, d'abord, et c'est le plus important sans doute pour Ibn Hazm, pervertit la langue, pervertit le langage, puisque précisément, elle fait en sorte que les mêmes mots ne soient pas compris par l'immense majorité et ne soient compris que par un seul.
Non, nous sommes simplement sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Gabriel Martinez-Gros, professeur d'histoire médiévale et fin connaisseur de la civilisation islamique. Aujourd'hui, en sa qualité, en votre qualité, Gabriel Martinez-Gros, de traducteur du Collier de la Colombe, cette œuvre sur l'amour et les amants d'Ibn Hazm, dont vous nous disiez et de quelle merveilleuse façon, comment il a été amené à établir, dans une approche allégorique et métaphorique, que la guerre civile, la fitna, mot de la même racine que fan, qui donne art aussi, et l'amour. Lui qui a connu aussi l'épreuve des geôles, il était emprisonné par moments, et après il a été élargi, comme on dit. Et alors, revenons, comme vous le faites si bien, au texte lui-même, ces différents portiques, la trentaine de chapitres, à ma connaissance, il y a un chapitre où il parle de l'amour du premier regard.
Voilà. Oui, absolument. Il y a des choses qu'on trouve là et qu'on ne retrouvera pas dans la littérature occidentale avant, par exemple, Madame de Lafayette. Par exemple, je parle de la princesse de Clèves. Par exemple, le fait que, vous savez peut-être, vous souvenez peut-être que la princesse de Clèves et Monsieur de Nemours, qui sont les amants fondamentaux, si j'ose dire, du roman de Madame de Lafayette, sont présentés l'un à l'autre avant de se connaître. C'est-à-dire qu'on leur parle de l'autre avant qu'ils ne se rencontrent, et ils sont déjà amoureux l'un de l'autre avant de se rencontrer, bien entendu. Eh bien, il y a ça dans Ibn Hazm. C'est-à-dire qu'il y a ce chapitre dans les naissances, les 10 premiers chapitres sont sur la manière dont naît l'amour. Et donc, il y a le premier regard, celui qui tombe amoureux, en effet, à la première vue, celui qui tombe amoureux d'un rêve, et celui qui tombe amoureux parce qu'on lui a parlé, tout simplement, ou parce qu'il a entendu une voix derrière un mur.
Et on tombe amoureux d'une voix, ça, voilà. C'est tout un chapitre dédié à cela.
Voilà. Il y a là des choses d'une finesse psychologique étonnante, et qui pour l'historien sont aussi tout à fait intéressantes, parce que cela montre ce qu'est la société andalouse du Xe siècle, c'est-à-dire une société qui est au total plus proche de la société de cour du XVIe ou du XVIIe siècle français, si on doit trouver des équivalences, que de la fameuse société des troubadours. Alors, parce que vous êtes en présence d'une société profondément urbaine, d'abord. Vous n'êtes pas en présence d'Ibn Khaldoun, vous n'êtes pas en présence de bédouins. Ibn Khaldoun, qui n'a pas le raffinement psychologique d'Ibn Hazm et qui n'a pas fouillé dans ces domaines-là de sa vaste pensée, de son vaste génie, Ibn Khaldoun dit à propos simplement des amours adultères qu'on prête à tel ou tel personnage des origines de l'islam, en particulier la femme d'Idris Kanza, dans la fondatrice du la mère du fondateur de Fès,
de la dynastie
d'Idriside. Et auxquels les ennemis de la dynastie et plus tard les ennemis des dynasties marocaines prêtaient des amours adultères pour discréditer les origines idrissides du Maroc. Il dit c'est stupide, dans une société bédouine comme celle où vivaient Kanza et Idriss, l'adultère est absolument impossible, tout simplement parce que les femmes sont entassées quasiment les unes sur les autres et que il n'y a littéralement pas de place pour qu'un homme pénètre dans ce monde, dans ce gynécée, ce qui est une réplique tout à fait pertinente. En effet, Ibn Hazm ne vit pas dans cette société-là. Il vit dans une société où il y a ce qu'on appellerait en anglais une privacy. Et il y a une vie privée. Oui. Il y a des pièces particulières. Il y a des pièces où on peut se retirer.
Leur maison était mitoyenne à celle d'Al-Mansour.
Exactement. Vous avez de grandes maisons avec de grandes cours. Il y a une magnifique anecdote dans le Collier de la Colombe où des femmes qui ont convoqué une fête. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se rassemblent, bien sûr. La mère, la sœur d'Ibn Hazm ont convoqué une fête avec toutes leurs clientes, dit-il. Donc il y a toute une société qui peut se retrouver. Et on se retrouve dans la cour, où on chante, où on danse. France. On monte ensuite à la tour d'où on peut regarder la ville. Il y a là une société d'abord profondément urbaine qui n'est pas une société militaire, à la différence de la société des troubadours ou des trouvères auxquels on a trop longtemps comparé le collier de la colombe, à mon sens, c'est à des siècles bien postérieurs dans l'histoire de l'Occident qu'il faudrait comparer la société du collier de la colombe. Et il y a, alors dans cette société où les hommes et les femmes sont fondamentalement séparés, bien sûr, mais cela crée un obstacle et une capacité de raffinement supplémentaire, évidemment, hein, parce qu'il s'agit fondamentalement de tourner l'obstacle, hein, et de tourner l'obstacle en sa présence même.
Alors oui. c'est... On dit du collier de la colombe, mais ça bien plus tard, qu'il est de la même facture que, par exemple, le journal d'un séducteur de Søren Kierkegaard.
C'est ça.
Ou même comme Le Rouge et le Noir de Stendhal.
Voilà.
Il décrit en gros les relations, ces effusions de sentiments, voilà, entre les êtres, les hommes et les femmes. J'ai lu, notamment dans votre traduction, et je l'ai lu aussi dans le texte en arabe, que quelqu'un étant tombé éperdument amoureux d'une jeune femme qu'il a vue passer, traverser le pont de Cordoue,
bien sûr,
sur Guadalquivir. Il la suivait et puis elle se retourne. C'est presque une scène de nos jours.
Oui.
Elle lui dit « Pourquoi me suis-tu ?» Il lui dit « Et c'est parce que mon regard ne peut pas se détacher de toi. »
Toi.
Et alors il lui demande un rendez-vous. Elle lui dit « Eh ben, tu me verras, s'il plaît à Dieu, vendredi prochain à la même heure, mais elle n'est pas venue. » Il reste comme ça inconsolable.
Absolument. Alors, il y a un ou deux éléments supplémentaires, d'ailleurs, dans l'anecdote, c'est que on est à l'heure de la prière du vendredi et qu'il préfère suivre cette jeune femme qui s'éloigne de la mosquée plutôt que de se rendre à la mosquée. Mais la conséquence, c'est qu'évidemment, ils sont presque seuls.
Oui.
Puisque tout le monde est à la mosquée, évidemment, et qu'elle se dirige, comme le font souvent les femmes le vendredi dans les pays d'islam, et peut-être après la prière collective, elle se dirige vers le cimetière pour y laver les tombes, hein, fondamentalement pour y entretenir les tombes, ce qui est une des grandes tâches collectives des femmes, et en particulier le vendredi. Et donc il la suit jusqu'à l'intérieur du cimetière et jusqu'au milieu des tombes des Omeyyades, et le nom qu'elle lui donne, c'est Khelwa, c'est-à-dire la retraite, hein, c'est-à-dire le fait d'être retiré du monde. Hein. C'est un nom à demi mystique. Hein. La Khelwa, c'est la retraite mystique aussi de ceux qui seront plus tard les soufis. Hein. C'est une catégorie qui n'existe guère encore, hein, les soufis à l'époque d'Ibn Khazm, mais la retraite existe déjà, la retraite spirituelle existe déjà, bien sûr.
Peut-être sans transition aucune avant de passer, mais nous n'allons pas trop nous y attarder, sur l'autre aspect de son rigorisme ou de sa rigueur. Si vous permettez, Gabriel Martinez-Gros, je lirai ces quelques vers que je déclamerai de votre propre traduction de quelqu'un qui était pris, bien entendu, de son amante et qui lui dit, je cite, « Mon œil ne se repose sur nul autre que toi. Il semble que ce qu'on raconte parfois des propriétés de l'amant s'applique à toi. Mon regard te suit partout où tu te diriges, toi la magnifiée, en tout geste que tu fasses, comme l'épithète suit le nom qualifié. » C'est extraordinairement beau, en tout cas, bien rendu par vous, Gabriel Martinez-Gros, en langue arabe, vu que la langue s'y prête et qu'elle est suggestive, lyrique, poétique, on sent cette poésie chez Ibn Hazm. Alors, étonnamment, en ce qui concerne les questions théologiques, il va raviver un courant de pensée dit littéraliste. Enfin, en toute rigueur, c'est le sens obvi qu'on au texte prescriptif, au normatif, du reste qui ne sont pas nombreux, mais qui se trouvent être dans la révélation coranique. Alors, pourquoi a-t-il agi de la sorte? Pourquoi a-t-il choisi ou a-t-il voulu corroborer ou consolider ce courant de pensée?
Alors, c'est probablement une vaste histoire. Il se situe d'abord donc au 10e, 11e siècle, c'est-à-dire probablement parmi les siècles les plus brillants hein, de l'histoire intellectuelle de l'islam. Louis Massignon, grand arabisant mort en 1962, enfin donc du début de la première moitié du 20e siècle, disait de ce 10e siècle que c'était le siècle ismaélien de l'islam. Hein, c'est-à-dire que c'est un siècle où les thèses chiites ont une importance considérable. Et ces thèses chiites sont déjà appuyées sur la fameuse, enfin, encore une fois, malheureusement fameuse, surtout pour les spécialistes, la division du monde, une division du monde fondamentale entre l'apparent, l'obvi, qui est généralement subalterne. Ce que vous voyez n'est qu'une apparence relativement subalterne. Et le sens secret, le sens profond, ce qu'on appelle batin, donc mot à mot en arabe, ce qui est dans le ventre, hein, batin, c'est le ventre, ce que les gens ont dans le ventre, et qui est évidemment le sens véritable des choses. Alors, ce sens au vie, cette distinction du sens au vie et du sens véritable s'applique d'abord évidemment au texte sacré, et d'abord au Coran, qui est supposé pour les chiites avoir une infinité de sens qui correspond à son caractère divin, hein, puisque le Coran, les chiites et les sunnites sont d'accord là-dessus, est un attribut de Dieu, les chiites en déduisent que cette qualité d'attribut de Dieu, donc de part quasiment de l'étincelle divine, assigne au Coran presque nécessairement une infinité de sens qui soit à la mesure de l'infinité divine, hein, bien sûr. Et donc, parmi ces sens, qui sont tous secrets au-delà du sens apparent, hein, que le prophète a révélé, c'est à l'imam chiite, descendant du prophète par Ali et par Al-Hussein, qu'il convient de choisir. Voilà, c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le choix d'Ibn Hazm en faveur du sens obvi, qui est évidemment tout à fait un choix anti-chiite. Hein. Il faut le dire très très clairement, Ibn Hazm est presque un militant, on pourrait dire, un militant intellectuel, hein, j'entends, d'une part de la Renaissance omeyyade et d'autre part de l'anti-chiisme, enfin d'un sunnisme particulièrement rigoureux, mais d'un sunnisme rigoureux et intellectuellement très solidement fondé, alors que peut-être dans des siècles postérieurs, le sunnisme se contentera de réaffirmer sans qu'il soit possible de les contester ni de les discuter les vérités du dogme. Ibn Hazm vit à une époque trop intellectuellement pénétré de discussions théologiques pour se permettre, et d'ailleurs ça ne l'aurait pas intéressé, hein, cette forme de bilakaïf, hein, comme on dit quelquefois, hein, ne demande pas pourquoi, hein, ne te demande pas pourquoi, crois et il suffit. Donc le zahirisme, c'est ça, c'est un anti-batinisme, c'est-à-dire une hostilité à cette vision chiite du sens secret et de la prééminence du sens secret sur le sens obvi. Si on en revient au collier de la colombe, c'est une illustration aussi, hein, du zahirisme. Parce que qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est le fameux sens secret, hein, des choses. Ibn Hazm vous dit, quelque part, dans une anecdote de la 20e, du 20e chapitre, si je ne me trompe pas, probablement la plus longue des anecdotes du Collier de la Colombe, où il tombe amoureux d'une jeune esclave. Il explique comment, à 14 ans, il est tombé amoureux d'une jeune esclave de la maisonnée, de la grande maisonnée des Banu Hazm, qui avait probablement un ou deux ans de plus que lui. Et il dit, il se souvient d'une scène au jardin, et il dit, pour finir la magnifique description de cette scène au jardin où elle chante un poème de Bagdadien d'ailleurs, il dit de ma vie jusqu'à mon lit de mort, jamais je n'oublierai ce moment. Et c'est ça le batin, hein, ce que vous avez dans le ventre. Mais la guerre civile éclate, mais la maison est éventrée. Mais la jeune esclave est exilée parce que on ne peut plus la nourrir et qu'on l'envoie à la campagne. Mais Ibn Hazm revient quelques années plus tard à Cordoue et la revoit et il ne la reconnaît même pas. Ce n'est pas seulement qu'il ne soit plus amoureux, c'est que, dit-il, je ne l'ai même pas reconnue. L'amour a totalement disparu. C'était donc une forme d'illusion. Et le dahir, c'est-à-dire l'obvi, et finalement la vérité qui s'impose au détriment de la vérité apparemment tellement plus séduisante de l'amour et qui n'est qu'un éphémère. Et cette obvie, c'est tout simplement le moment où, poussé dehors par la guerre civile, Ibn Hazm cesse d'appartenir à la communauté familiale pour entrer dans une autre communauté qui, à ses yeux, est nettement plus importante et solide, qui est finalement la communauté des hommes... Alors, j'allais dire des hommes de religion, mais on y voit un clergé, mais c'est pas tout à fait ça.
Des clercs,
des hommes dont la réflexion, et en particulier évidemment la réflexion religieuse, mais pas seulement, dont la réflexion intellectuelle est la raison de vivre.
Nous sommes toujours sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Gabriel Martinez-Gros, professeur d'histoire médiévale et fin connaisseur de la civilisation islamique. Nous parlons d'Ibn Hazm et de son œuvre majeure, le collier de la colombe de l'amour et des amants, que vous avez traduit si bien, Gabriel Martinez-Gros. Et nous parlions un peu de ces paradoxes de l'homme. J'ai cru comprendre qu'il était plutôt dans son enfance ou dans son adolescence et dans ses études plus d'obédience chaféite,
oui.
Si on revient aux écoles juridiques.
Tout à fait.
Et puis, il va asseoir, comme vous l'avez si bien dit, ce courant de juridico-théologique du zahirisme, un terme arabe qui veut dire ce qui est obvi, ce qui est manifeste, contraire de ce qui est caché. Peut-être que, si vous voulez bien, nous consacrons ces derniers temps de l'émission à l'ouvrage. Et j'ai cru aussi percevoir, en lisant, toujours dans votre traduction, cette autre anecdote d'un monsieur, plutôt au soir de sa vie, qui quelqu'un lui pose la question « Mais quel âge as-tu ?» Il lui dit « Oh, très peu, très peu ». Il lui dit « C'est étonnant, toi qui es si... » Enfin, je veux pas être discourtois, mais toi qui es si âgé, il lui dit « Ben non, moi, le temps véritable de vie, c'est le temps de bonheur, et j'ai passé un moment avec ma bien-aimée, et c'est même le temps d'un baiser que j'ai eu avec elle qui est la quintessence de ma vie. »
Tout à fait, tout à fait.
Et avoir un Ibn Hazm qui est rigoureux sur les questions... normative, prescriptive, mais qui est aussi de ce qui peut paraître d'une certaine licence dans ses écrits, c'est cette psychologie-là que nous essayons de cerner avec vous, Gabriel Martinez-Gros, concernant cet homme du XIe siècle.
Donc, tout à fait, tout à fait. Il dit encore un vieillard... qui est un homme de religion d'ailleurs, en effet, à qui brutalement et sans qu'il s'y attende, à qui on rappelle un amour d'enfance, c'est-à-dire que on évoque un nom qui pour lui est celui d'un amour d'enfance et qu'il avait enfoui dans un souvenir tellement profond qu'il pensait l'avoir oublié, et d'un seul coup, dit-il, l'homme se trouble, il rougit, les larmes lui viennent aux yeux. Et il est submergé par l'émotion. Il y a ce sentiment proustien, si vous voulez, chez Ibn Hazm, qui est tout à fait étonnant et qui est le batin. Hein. C'est-à-dire que la subtilité d'Ibn Hazm dans le combat anti-chiite consiste à dire ils ont touché à quelque chose de vrai de très profond dans l'histoire des êtres humains. C'est-à-dire qu'au fond de tout être humain, il y a quelque chose d'extraordinairement violent, une émotion extraordinairement violente, qui est en effet cachée, qui a été recouverte par les couches de la vie. Et cette émotion, alors Proust vous dirait que c'est de cette émotion qu'il a fait la recherche du temps perdu, et qu'il n'y a, pour un homme comme Proust, il n'y a que ça qui compte. Hein, je veux dire que c'est cette émotion-là dont nous vivons, dont Proust, en tout cas, lui, a vécu, et surtout dont il a écrit, hein, fondamentalement. Ibn Hazm, lui, n'est pas tout à fait de cet avis. Hein. Il pense que cette émotion est réelle, qu'il est au total, non pas facile, parce que c'est le hasard qui s'en charge le plus souvent, mais qu'il est au total toujours possible de la réveiller, à quelque âge qu'on vive, mais que au-delà de cette émotion, il y a une réalité, le dahir précisément, qui est le moment où on est sorti de l'enfance, parce que cette émotion, elle vous vient généralement de l'enfance ou de l'adolescence, c'est le moment où on est sorti de l'enfance et qu'il y a dans cette sortie quelque chose d'extraordinairement douloureux, mais quelque chose en même temps d'extraordinairement nécessaire. Et c'est ça le dahir. Le dahir, c'est sortir au grand jour. Depuis la caverne de l'enfance, hein, la caverne de la demeure familiale où le jeune Ibn Hazm à 14 ans pouvait encore laisser déployer librement ses amours à l'égard des jeunes servantes, sortir au plein soleil, et le plein soleil pour Ibn Hazm, c'est le plein soleil de la religion musulmane et de la communauté des croyants, et en particulier de cette communauté des ulama, des hommes qui s'intéressent à la pensée, tout simplement.
Alors, j'ai cru comprendre aussi, et je le dis sous votre contrôle, Gabriel Martinez-Gros, que lui qui était là aussi très drastique sur ce qui est licite, illicite, dit sauf une chose, c'est en matière d'amour, ça ne peut pas tomber dans ces catégories.
Voilà.
C'est même une grâce.
Oui.
On ne peut pas inhiber ce sentiment.
Oui.
Je ne pousse pas à être licencieux, certes, mais quand ça tombe, ça vient, il faut l'accueillir ainsi.
Tout à fait. Ça, c'est tout à fait étonnant. Il en parle à propos des califes, par exemple. Hein. Il dit que quand un calife s'humilie devant une femme parce qu'il en est amoureux, ça n'est pas la même chose que de s'humilier devant son ennemi. Hein. Il n'y a pas de guerre de l'amour. Hein. Il y a un espace qui n'est précisément pas l'espace social. Les lois de l'amour, précisément parce que c'est un monde qui s'isole de lui-même, c'est une autarcie, comme vous le disiez parfaitement, hein. Les lois de l'amour sont en propre, sont des lois en propre, et qui n'ont rien à voir avec les lois du monde social ou du monde politique. Sinon que, et cela c'est probablement assez vrai, hein, ce sont toujours des lois qui vous renvoient à votre enfance ou à votre extrême jeunesse. C'est-à-dire que quand on est amoureux, on est toujours jeune. C'est une vérité d'évidence pour la langue populaire. Mais la langue populaire, en l'occurrence, a raison. Elle rejoint tout à fait Ibn Hazm. C'est-à-dire que il y a là quelque chose qui vous renvoie au monde fermé, hein, de la jeunesse, de l'enfance ou de l'adolescence, hein, indiscutablement. Et c'est pourquoi il est possible que la colombe du titre fasse en effet allusion à cette immersion de la terre dans le déluge de Noé. Hein, et le dahir, c'est le moment où la terre réémerge. Hein, voilà.
Et il y a aussi dans l'ouvrage et même dans ses comportements un amour mystique.
Oui,
il en parle aussi de l'amour, oui, entre l'homme adorateur, serviteur de Dieu, et l'amour théologal, l'amour, oui, oblatif.
Voilà, voilà. C'est effectivement celui qui demeure lorsqu'on est entré dans ce que Ibn Hazm appelle l'âge adulte, c'est-à-dire quand on a quitté les amours enchantés, les paysages enchantés de l'enfance, et qui se nourrit, hein, effectivement des paysages enchantés de l'enfance. Mais il ne renie pas, vous le disiez très justement dans votre question précédente, il ne renie pas, et il pense qu'il est impossible d'ailleurs de renier les amours de l'enfance. Hein. Il sait et il admet que tout un chacun porte en lui ses amours de l'enfance, et qu'il est capable, il doit être capable de les reconnaître chez d'autres, bien sûr. Hein.
Alors, Gabriel Martinez-Gros, pour la dernière question, qu'en reste-t-il maintenant d'un ouvrage tel que celui-là, Le collier de la colombe, de l'amour et des amants tel que c'est décrit comme ça? Pensez-vous que c'est d'un manque d'amour que nous suffoquons et d'un manque de tendresse que nous étouffons?
Oui, probablement, oui, c'est vrai. Si je peux donner un souvenir personnel, c'est celui de mon rapport avec ce texte. C'est pendant un long été, je pense de l'année 1992 ou 1991, je ne sais plus très bien. Non, il a dû paraître en 1992.
Il est paru en 92, ça voilà. Je peux vous le dire.
que j'ai traduit ce texte et j'y ai trouvé une immense émotion. Il se trouve que j'étais seul à ce moment-là, dans cet appartement où je traduisais, et j'y ai trouvé effectivement une émotion tout à fait considérable. Et en effet, comme le dit Ibn Hazm, je suis retourné vers mes propres sentiments d'enfance, hein, bien sûr, vers mes propres sentiments de pleine et de prime jeunesse. Oui, c'est il reste un livre tout à fait étonnant, non pas seulement à cause de la personnalité d'Ibn Hazm, mais d'Ozi, qui découvre le livre au XIXe siècle, dit « ce n'est pas un livre d'amour arabe ». Hein, c'est ce qui est tout à fait étonnant. Ce très grand arabisant pouvait estimer, ou croyait pouvoir estimer, ce qui est évidemment assez ridicule, hein, ce qui était arabe et ce qui ne l'était pas dans le sentiment amoureux. Or, en fait, toutes les comparaisons que nous avons pu faire justement au cours de cette émission avec, par exemple, la littérature française montrent qu'effectivement, il y a une forme d'universalité du sentiment qui se donne effectivement dans des sociétés différentes. Ça, c'est vrai. Hein? Mais cette société n'est pas très éloignée, encore une fois, de la nôtre au total.
Eh ben, merci infiniment. Merci beaucoup, Gabriel Martinez-Gros. Merci de nous avoir édifiés et instruits, mais en même temps parlé de l'amour, des amants, de ce collier de la colombe, d'Ibn Hazm, son auteur. Vous êtes professeur d'histoire médiévale et vous enseignez aussi la civilisation islamique à l'université Paris-Ouest Nanterre. C'était Question d'Islam sur France Culture. Vous retrouverez, chers amis auditeurs, les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Manuel Couturier et la réalisation est toujours assurée par l'ami Franck Lilin.